maintenant, en direct du Salon du Jeu de Société de Paris, notre envoyé spécial vous ramène un bon podcast.
Bien, bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Cyril Demag de la société d'édition Histary. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Alors voilà, l'actualité directe du Salon du Jeu de Société de Paris. Enfin, c'est pas l'actualité directe, mais en tout cas ça buzz déjà évidemment. C'est la version francophone de Le Havre et l'extension de... La deuxième extension de Race for the Galaxy, c'est juste?
Oui, alors malheureusement, on espérait avoir tout ça pour le salon, mais les aléas de production font que ça va arriver juste un peu après le salon. On est désolé, mais en attendant, on tâche de faire de la démo du Havre, et puis bah, Race, ça arrivera un petit peu plus tard, quoi.
Ils vont peut-être livrer de nouveau une palette dans le jardin de Cyril Demag.
Non, j'espère que cette fois-ci, ils vont la livrer au bon endroit. Mais en tous les cas, ils vont la livrer d'ici, à mon avis, une quinzaine de jours pour Le Havre et d'ici un mois pour Race.
Alors l'historique du Havre, ben, en fait, il était déjà en pleine lumière vu que c'était le deuxième jeu de Uwe Rosenberg pour, après Agricola.
Ouais.
Et Histary a sauté dessus ou bien c'était clair que vous alliez le faire?
Voilà, non, ça s'est fait dans la continuité, bonne relation. Agricola, on a fait une bonne version française, donc il n'y a pas eu vraiment de doute, il n'y a même pas eu vraiment de questions, à vrai dire, on l'a fait presque naturellement.
On est dans la logique d'auteur ou de... Enfin, on dit c'est le prochain Uwe Rosenberg, quoi.
Oui, c'est une grande confiance, de toute façon, comme je disais, on a fait au début Agricola simplement parce que Lookout, c'est nos voisins de stand depuis des années, donc des relations s'instaurent, etc. Donc ils nous font confiance, on leur fait confiance, et voilà comment ça marche.
Alors justement, comment est-ce que ça marche, Le Havre?
Eh bien, ça marche... Il y a beaucoup de traits en commun avec Kellus, beaucoup de traits en commun avec Agricola. C'est vraiment un espèce de mix des deux.
Donc, sur mesure, ça.
Oui, c'est un peu plus complexe que Agricola. Il faut quand même pas hésiter à le dire. Le jeu en lui-même est, en fait, c'est exactement comme Agricola du point de vue explication des règles. L'explication des règles est un petit peu complexe, mais derrière, le jeu marche un peu tout seul, de façon très très fluide. La difficulté et la grande différence par rapport à Agricola, c'est que dans Agricola, on est quand même dans des stratégies assez fermées. C'est-à-dire qu'on doit développer sa ferme dans un espace défini, etc. Dans Le Havre, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'étendre dans une direction, voire dans l'autre, pour des résultats complètement différents. On va pouvoir développer un certain type de produit. Par exemple, je vais citer un exemple un peu triste, mais bon, récupérer du bétail, monter un abattoir... Ça va nous faire à la fois de la viande pour nourrir tout le monde et en même temps, on reste dans la logique fermière, et en même temps des peaux qu'on va pouvoir envoyer dans une tannerie pour faire du cuir et ensuite le cuir le valoriser à fond en termes de points de victoire.
Ouais. Donc voilà. Agricola pourrait être le point zéro du Havre en fait.
Oui, je dirais que c'est en fait... Je pense que le dénominateur commun entre Agricola et Le Havre, pour être tout à fait honnête, et je le sais d'autant plus que j'en ai discuté avec Uwe Rosenberg, c'est vraiment Kellus. Et en fait, je crois que c'est deux réflexions de Uwe Rosenberg autour de Kellus. Le premier, c'est une vision des choses telle qu'on aurait pu le faire, par exemple, et on retrouve le principe de la route. Donc c'est une réflexion autour du principe de la route dans Kellus. Tandis que l'autre, c'est plus une réflexion autour du développement stratégique dans Kellus, c'est-à-dire le développement des bâtiments. Donc je pense que le dénominateur commun est vraiment Kellus. C'est un peu curieux et un peu présomptueux de dire ça, mais dans les faits, c'est la réalité. Et ça m'a été confirmé par Uwe Rosenberg.
C'est lui qui l'a
écrit. Il l'a d'ailleurs écrit dans les règles du Havre.
Donc, voilà. Le Havre, ça se matérialise comment en fait? Il y a un plateau qui est assez longitudinal, on n'a plus sa petite ferme de son côté?
Non, absolument plus. En fait, l'idée c'est qu'il y a effectivement un plateau qui est commun aux joueurs qui va servir à montrer l'avancée des tours de jeu. Simplement, chaque joueur va poser à son tour son bateau pour montrer l'avancée du tour et ça va se jouer en 7 bateaux. Donc à chaque fois que tous les 7 bateaux, il y a un round qui va se terminer et il y a un certain nombre de rounds suivant le nombre de joueurs. Et après, les plateaux des joueurs, enfin les joueurs n'ont plus de plateau indépendant, mais par contre, ils vont construire des bâtiments. Les bâtiments, c'est 3 lignes de bâtiments. On va pouvoir construire celui qui est au-dessus de chaque ligne. Et également construire des bateaux, mais ça, c'est un autre truc. Et en fait, quand on construit un bâtiment, on le met devant soi. Donc c'est un plateau individuel, virtuel, on va dire. Le rapprochement par rapport à Kellus de ça, c'est que donc les bâtiments ont différents effets. Par exemple, j'ai parlé de l'abattoir tout à l'heure ou de la pousserie. Mais en plus de ça, on a un personnage et un seul, on ne se reproduit plus dans Le Havre, les marins sont solitaires, et on va pouvoir passer de bâtiment en bâtiment. Et quand on arrive sur le bâtiment, on paye à son propriétaire un droit d'entrée, donc encore un point commun avec Kellus, et on va activer ce bâtiment. Donc voilà, en gros ça marche comme ça.
C'est combien de joueurs?
Alors, le jeu va pouvoir se jouer de 1 à 5. Il faut savoir que la version A5, j'allais dire, est recommandée aux vraiment fans hardcore, parce que le jeu est assez long, il n'est pas immensément long, mais et de toute manière, il est proposé en version courte, version longue, donc il y a moyen de s'adapter, mais la version longue A5 est très très longue, genre 4 heures.
Autant Agricola avait une version familiale où il n'y avait pas les cartes, etc., on peut dire que Le Havre est quand même un poil au-dessus.
Alors, il est moins complexe qu'Agricola avec les cartes, d'une certaine manière. Là où il est complexe, c'est vraiment dans le développement stratégique. C'est-à-dire que quand on construit des bâtiments, au bout d'un moment, on va apprendre à connaître les bâtiments et donc à se prévoir une stratégie, de dire, tiens, là, je vais m'acheter ce bâtiment-là, comme ça, plus tard, j'achèterai celui-là, et donc je vais faire ce cheminement, tout ça. Mais il faut passer par une phase où on apprend les bâtiments. Et du coup, on va pouvoir faire des développements stratégiques et creuser des vrais écarts en termes de points. Par contre, et c'est là qu'est la complexité stratégique, et c'est là qu'il est plus complexe qu'Agricola. Par contre, finalement, il est également un petit peu plus simple parce qu'il y a beaucoup, enfin, il est moins foisonnant qu'Agricola. Donc, enfin, je dirais quand même qu'il est plus complexe d'un point de vue stratégique, mais moins foisonnant.
Oui, c'est ça. Agricola, malgré tout, reste quand même assez tactique. Il est plus du côté tactique.
Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tandis que les bons joueurs du Havre vont vraiment, vraiment exploiter la ligne de bâtiments dans l'ordre où elle se présente. Les bâtiments sont numérotés, en fait. Les plus puissants arriveront plus tard dans le jeu et vont réussir à faire des stratégies qui vont leur permettre de faire des vrais vrais écarts de points avec les débutants qui vont au début construire un peu au hasard en se disant tiens ça a l'air d'être un bon bâtiment, mais le tout n'est pas de construire un bâtiment parce qu'il a un pouvoir intéressant, mais aussi parce qu'il va pouvoir faire une bonne combo avec l'autre. En ça, on retrouve les combos de cartes d'Agricola, mais elles sont moins aléatoires puisqu'elles sont disponibles pour tout le monde.
Donc l'action d'acheter un bâtiment et de l'activer se passe comment?
Alors, en fait, il y a deux façons d'acheter un bâtiment. La première, c'est par l'argent. Et ça, c'est une action gratuite. À tout moment, on peut dire, j'achète ce bâtiment en payant son prix. Le problème de ça, c'est que on ne fait pas une plus-value très intéressante, puisqu'à la fin, le bâtiment vaudra son prix. Donc, si j'achète un bâtiment qui vaut 15, à la fin, il me rapportera 15, mais il m'a coûté 15, donc zéro. Par contre, j'ai son pouvoir. L'autre façon qui est plus intéressante, c'est d'aller sur une entreprise de construction qui va me permettre, en payant juste les ressources qu'il faut, par exemple du bois et de la brique, d'avoir ce bâtiment devant moi. Ouais, donc voilà, c'est les deux façons de le faire, construire ou acheter.
Et les ressources s'obtiennent?
Alors les ressources s'obtiennent, alors de façon très simple. En fait, mon tour de jeu est très simple. J'avance mon bateau sur la case suivante, qui marque l'avancée du tour. Ça produit des nouvelles ressources sur des quais. Alors il y a un quai pour les francs, un quai pour les poissons, un quai pour le bois, un quai vin. Et à mon tour de jeu, j'ai le choix entre deux options obligatoires. Donc je dois faire une action obligatoire parmi deux. La première action obligatoire, c'est prendre toutes les ressources d'un quai. Donc par exemple, il y a 8 bois, je les prends toutes. Encore un truc qui est assez proche d'Agricola. La deuxième, c'est activer un bâtiment en fait. Donc aller sur un bâtiment pour faire une action. Donc l'action peut être je vais construire. Et ensuite, j'ai des actions non obligatoires que je peux faire en plus, qui est là acheter un bâtiment, là c'est là maintenant, que je peux dépenser mon argent pour acheter un bâtiment, vendre un bâtiment. Mais le problème, c'est que je le vends à moitié prix, donc c'est une petite mort, on va dire. La troisième, c'est prendre un loan, c'est-à-dire
un prêt,
voilà, exactement. Je parle comme Jean-Claude Van Damme.
Ok, et donc le tour avance, il y a combien de phases de tour?
Alors, ça dépend du nombre de joueurs, en fait. Donc, par exemple, une partie à 3 joueurs courte, il va y avoir 12 tours, mais il y en aura 18 en version longue. Et suivant le nombre de joueurs, tout ça est planifié.
Et le jeu se termine quand?
Alors le jeu se termine au bout d'un nombre de tours fixé. On fait un nombre de tours fixé. Au bout de ce nombre de tours fixé, chaque joueur a le droit de faire une dernière action profitable. C'est-à-dire pas acheter, ça sert à rien, ni rien. Mais de produire une dernière fois, par exemple dans son abattoir ou etc. Et là ensuite on compte l'argent. C'est-à-dire les bâtiments qu'on a devant soi, plus l'argent qu'on a banqué, celui qui a le plus d'argent gagne la partie.
Ok. Ben voilà. Donc il n'est pas là pour l'instant, c'est quoi le planning donc?
D'ici 15 jours il sera là, c'est-à-dire que là, malheureusement, j'ai livré les fichiers il y a bien longtemps, en février, mais pour produire il fallait que toutes les langues soient prêtes, donc voilà, et il s'avère que malheureusement ce ne sera en production que demain.
Ah oui, d'accord.
Enfin demain, après-demain du coup.
Ah, oui. Le boulot de traduction était aussi important que pour Agricola?
Non, il a été un peu plus simple, faut être honnête, parce que simplement déjà il y a beaucoup moins de cartes. Ouais. Et Mais bon, par contre, comme souvent les règles de Lookout, c'est assez complexe. Il y a des recoupements dans tous les sens, des aides de jeu qui se recoupent. Il faut faire très attention à ne pas faire d'erreurs sur les noms des bâtiments. On a choisi de changer certains noms de bâtiments parce que pour des raisons pratiques, on trouvait que les noms n'étaient pas très pratiques. Par exemple, il y avait un quai pour construire les bateaux. Nous, on a trouvé beaucoup plus sympathique de l'appeler chantier naval parce qu'il y a également des quais de déchargement. Donc, ce qu'on a appelé l'endroit où on pose les ressources, on a appelé ça des quais, puisque c'en est. Et l'endroit où on construit les bateaux, c'est un chantier naval. Donc on a dû faire très attention de ne pas faire d'erreur de traduction. Ça a été un vrai enfer, en fait.
Ok, mais on se réjouit alors. Et bien voilà, c'était Cyril Demac de la société d'édition Hystérie. Merci Cyril.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Merci de votre audience. Merci, chers auditeurs. Et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.